marcher avec toi, attendre et entendre ce que tu as à nous dire. Puis surtout, Père, qu'on puisse garder les yeux sur toi, Seigneur Dieu. Dans ton précieux nom, Jésus, je te demande de bénir la parole.
Amen. Amen.
On va tourner ce soir dans. Tu peux ouvrir ma Bible? Dans Jean 8. Dans Jean 8, verset 31. Est-ce que quelqu'un peut aller les 31-32, s'il vous plaît?
Version, s'il vous
plaît. Peu importe. Peu importe.
31-32?
Okay. Jean 8, 31,
et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. »
On voit ici que Paul va, pas Paul, Jean, va rapporter les paroles de Jésus, qui va dire qu'en écoutant la parole de Dieu, ça va nous affranchir. Puis on va vraiment et réellement être les disciples du Seigneur. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, voilà. OK. Et le mot disciple, qu'est-ce que ça veut dire le mot disciple?
Apprenant.
Un apprenant, exactement. Le disciple est un apprenant. Le mot, c'est quoi?
Mathétès.
Qui veut dire... Quand on lit dans les textes de l'époque en grec, là, tu vas voir le disciple, l'apprenant, puis tu vas voir qui est le didascalus, l'enseignant. Alors, l'enseignant puis l'apprenant, puis les deux sont mis vis-à-vis l'un de l'autre. Alors, quand il y a un enseignant, il va avoir un mathétès, à moins qu'il parle dans le désert comme Jean-Baptiste, puis que personne n'écoute. Mais normalement, il va y avoir quelqu'un qui va écouter ce que l'enseignant a dit, puis qui, on l'espère, va apprendre quelque chose. Alors, le disciple, c'est ça. Et Jésus va dire, il dit, si la parole va vous affranchir, il y a une condition à être disciple, il y a une condition à être affranchi, et cette condition-là, bien, c'est la parole de Dieu. C'est écouter la parole de Dieu, c'est se laisser affranchir par la parole de Dieu. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit se laisser affranchir par la parole de Dieu, c'est que quelque part, on ne doit pas être affranchi. Parce que tu n'affranchis pas quelqu'un qui est déjà libre. Tu peux affranchir quelqu'un qui est lié, qui est déjà lié par quelque chose. Et là, il parle à des disciples. Et il leur dit, ma parole va vous affranchir. Comment il dit ça? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, il parle à des croyants. Puis il dit, la parole va vous affranchir. Ils vont réagir. Ils n'aiment pas même ça. Parce qu'on est mis en demeure de dire, ben OK, de quoi est-ce que je suis esclave? Parce que c'est seulement les esclaves qui sont affranchis. Surtout à l'époque. Il y avait le marché d'esclaves. Tu allais au marché d'esclaves, puis tu payais la note pour acheter un esclave. Tu l'affranchissais. Soit que tu l'achetais pour toi, ou si tu voulais affranchir l'esclave, mais là, tu le rendais libre. Mais il fallait que tu payes pour que l'esclave puisse être libre. Et il y a trois mots que, je ne rentrerai pas dans ça ce soir, mais il y a trois mots que le Nouveau Testament va utiliser pour parler de ça. Tu as le mot pour aller au marché d'esclaves, payer quelque chose. Tu as un mot pour acheter un esclave, l'amener avec toi. Puis tu as un mot pour payer un esclave, l'amener avec toi, puis le relâcher, le libérer. Jésus a accompli ça, les trois aspects. Les trois aspects sont utilisés, ou les trois mots sont utilisés pour parler de ce que Jésus-Christ fait. Alors, il nous affranchit, mais pour pouvoir être affranchi, ou du moins pour pouvoir accepter qu'on est affranchi, il faut avoir accepté qu'on est esclave, puis qu'on s'est livré à quelqu'un comme esclave. Surtout dans la pensée juive, parce que le juif entre eux ne pouvait pas prendre de juif comme esclave. Tu pouvais seulement, si tu étais esclave parce que tu avais une dette que tu devais payer, Mais après un certain temps, tu étais libre, à moins de te rendre esclave volontaire du maître. Alors, tu te rendais toi-même esclave de quelque chose. Fait que, j'ai dit, la parole va vraiment vous affranchir. Puis évidemment, quand on regarde ça, on dit, oui, mais Seigneur, Galates 5.1, c'est pas la croix qui m'affranchit. T'as pas payé à la croix que je sois affranchi. Évidemment, j'ai envie de 32 avant la croix. Mais après, mais Jean a écrit son évangile après la croix. Il parle. Mais ça veut dire qu'il y a deux aspects à l'affranchissement. Il y a deux aspects. Il y a un aspect légal où est-ce qu'effectivement Jésus va payer le prix de ma rançon. Mais il y a aussi que moi, je dois réaliser que j'ai été affranchi. Je dois dorénavant me reconnaître comme étant affranchi. Parce que si j'agis encore comme un esclave, un peu comme dans le temps où est-ce que... Vous savez, dans la transition qu'il y a eu les eaux, là, les eaux étaient comme... Tous les animaux étaient dans des cages, peut-être pas plus grandes que celles-ci, des gros, des ours, des ours, des lions. Ou, et le lion et l'ours, toute la journée, ils marchaient, ils faisaient le carré de sa cage. Puis quand les ours sont devenus plus humains, entre guillemets, puis que les animaux ont été amenés dans des enclos plus grands ou plus naturalisés, ce qui se passait, c'est que les animaux qui avaient vécu dans les cages... faisait le même rectangle. Ils étaient habitués, eux autres, ils avaient toujours fait le rectangle. Fait qu'ils n'exploraient pas leur nouvel enclos parce que tout ce qu'ils connaissaient, c'était leur rectangle. Fait qu'être affranchi, c'est apprendre justement qu'on n'est plus dans cet enclos-là. Tu sais? Puis qu'on n'a pas à se comporter comme si les barreaux étaient encore là. C'est pour ça que Paul va dire dans Romains 6, considérons-nous maintenant comme morts au péché. On est mort au péché, on n'a plus à se rendre esclave du péché, on n'a plus à s'imaginer comme si on est dans cette cage-là. Esclave du péché, dans l'entendement que je suis obligé d'obéir à la tentation de la chair. Que je peux être libre de ça. Puis ça, c'est la parole qui fait ça. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui est affranchie. C'est ça que donc Jean, ici, rappelle hein, que Jésus a dit, que Jésus a voulu expliquer aux gens qui avaient cru en lui que justement, ils n'étaient pas obligés de vivre comme des esclaves. Si on continue à lire dans Jean 8, 31, après ça, ça dit quoi? Ben non, il n'y a pas de problème.
Verset 33?
Oui.
Il lui répondit...
32.
OK. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
OK, continue.
Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Donc, on voit Paul utiliser la même chose en Romains. On voit Paul utiliser la même chose dans Romains 6 pour justement, puis ailleurs les épîtres, celui qui se livre hein, au péché, devient esclave du péché. Mais regardez bien, comment est-ce que tu veux que ces gens-là reconnaissent leur affranchissement et se laissent affranchir par la parole alors qu'ils ne reconnaissent même pas qu'ils sont esclaves? Tu peux pas accepter la... Écoute, je vais te libérer, moi. Je ne suis pas esclave de personne. Comment tu veux reconnaître ou accepter d'être affranchi? Quand tu ne reconnais même pas que tu es esclave? Et pourtant, c'était des gens qui avaient cru en lui. Mais ils avaient cru, mais ils ne s'étaient pas laissés justement toucher pour dire, « Hey, on est esclave. » On est esclave de toutes sortes de choses qui nous rendent esclaves. Puis qu'on s'est livré à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'a pas peur de dire ben, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Verset 37, « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Alors évidemment, ils deviennent enragés. Ils ne sont pas contents pour tout ce qu'il dit là. Verset 39, « Notre père, il répondit, notre père, c'est Abraham. Évidemment, c'est une pointe. Hein? Parce qu'ailleurs, ils vont dire, nous, on sait qui est notre père. Parce que Marie était... Il y avait plein de choses qui avaient été véhiculées sur Marie, puisque Marie avait été couverte par le Saint-Esprit et que Jésus était né. Sans la collaboration de la gente masculine. Et donc, beaucoup de choses étaient dites sur Marie, sur Jésus, qui était ni plus ni moins qu'un bâtard aux yeux de plein du monde. Et donc, nous, on connaît notre Père. On est descendants d'Abraham. Et donc, et Jésus leur dit carrément, il dit, si vous étiez l'enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Alors, vraiment, là, ce qui est intéressant dans ça, c'est que dès à présent, on peut croire, mais pour aller plus loin, il faut devenir matétesse, il faut porter l'oreille à la parole de Dieu pour être libéré. Et j'aurais médité là-dessus cette semaine parce que je réalisais que je suis convaincu en 1983. Ça fait donc 34 ans que je suis au Seigneur. Puis, fait que là, je dis, ça passe vite, 34 ans. Puis, il faut que toujours, en tout cas pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais moi, il faut que je revienne là. Parce que je dois quand même me rappeler que je dois être ma têtesse. Je dois tendre l'oreille et écouter de mon maître pour qu'il m'affranchisse. Parce que il y a des endroits de ma vie où est-ce que quand je me suis converti, ben ça, c'était ma prison. Puis là, ben, Dieu m'a affranchi, il dit, regarde, wow, c'est bien fun! Ma prison est bien plus large que je pensais. C'est bien cool, c'est bien beau. Quelques années après, hey, wow! C'est beaucoup plus grand que je pensais, la prison. Puis au fur et à mesure que tu avances dans le Seigneur, tu es libéré de plein de choses parce que tu dis, hey, c'était même pas une prison. Mais ce que tu penses pas être une prison, dans le fond, c'est une prison un peu plus grande. Puis tu réalises, après 34 ans, que Dieu n'a pas cessé de vouloir nous faire ôter ce qui nous retenait captifs. Pour être continuellement délivré de nous-mêmes. Parce qu'il est toujours notre sauveur, il est toujours notre père. Puis un père, ben, ça veut toujours ce qui est le mieux pour ses enfants. Puis c'est toujours dire, ben, écoute, tu le sais pas encore, mon pauvre toi, mais tu marches encore en carré dans une petite prison. T'sais? Comme ce lion-là qui marche, qui réalise même pas qu'il a accès à tout un enclos superbe, mais que les gens se demandent, tu sais, pourquoi il marche en carré dans l'enclos? Tu veux la grandeur d'enclos? Il marche en rectangle, en carré, dans un petit enclos de rien du tout, grosse bête. Je sais que c'est un enfant embarqué dans une chose, il l'a regardé de loin, tu sais.
Tu peux pas le manger.
Je peux pas le manger. Fait que le disciple, c'est celui qui apprend. C'est celui qui se laisse affranchir. C'est pas juste celui qui apprend, parce qu'on peut apprendre de bien des façons. Mais c'est celui qui apprend pour se laisser affranchir, se laisser délivrer de la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Maintenant, 2 Timothée 3, 7 à 8. Hey, t'aurais-tu quelque chose pour un verbe?
Bien sûr.
Ça peut ressembler.
Moi, c'est sûr. Non.
On a eu des bonnes leçons de toi avec les slacks et les aspirines. Tu disais que c'était pas ce qui était ressemblant qui comptait.
Non, c'était les différences qui comptaient. Merci beaucoup, t'es bien fait. Merci. Parce que on peut apprendre sans jamais être ici. Regardez 2 Timothée 3, 7 et 8. Est-ce que quelqu'un peut le lire?
Si, c'est ça.
Ouais, 7 et 8. 2 Timothée 3.
OK. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Genèse et Jambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi.
Je pense pas qu'il y ait personne comme ça ici à soir. Là. En tout cas, je l'espère. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font toujours?
Ils apprennent toujours.
Ils apprennent toujours. Mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Fait que le mathétès, le disciple, lui, il apprend. Et il se laisse affranchir. Mais on voit ici des gens qui apprennent toujours, mais qui ne sont jamais affranchis de rien. Fait que apprendre en soi, si je ne m'humilie pas, c'est quoi l'humilité, reconnaître? Tu sais, s'humilier, c'est reconnaître notre mort. C'est reconnaître que, tu sais, quand Claire va dire demander à Dieu, c'est que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu sans douter, mais que celui qui manque, pour recevoir de Dieu, il faut reconnaître notre manquement. Même chose pour apprendre de Dieu, pour apprendre, tendre l'oreille à Dieu puis apprendre de lui, il faut reconnaître notre ignorance. Sinon, on ne peut pas apprendre. Puis moi, le premier, j'essaie de voir, j'essaie de compter un petit peu combien de faisait l'année que j'étais dans le ministère, puis je suis dans la barre. Je me suis converti en 83, je commençais à faire du ministère en 86. C'est 31 ans, 32 ans peut-être que je fais du ministère. Là, j'ai commencé en 83, je me suis converti. 84, 85. Là, je commence à faire du. Un petit peu à l'université avec Campus pour Christ. Fait que déjà en 85, ça veut dire déjà 32 ans. À peu près 33? 32? 32. Fait que là, on est en 2017. Hein? Ouais. Fait que là, je dis, toutes ces années-là, à vouloir sonder, à vouloir comprendre les Écritures. Qu'est-ce que tu dis là? Fait que toutes ces années-là, mais il faut réaliser que même ça, ce petit bout de vie-là, ben c'est pas gros là, 32 ans, ce petit bout de vie-là, puis plus tout ce que j'ai étudié avant, pour me convaincre que oui, ça avait du bon sens d'être croyant, mais quoi, l'Évangile, tout ce petit bout de vie-là, j'en sais à peine plus que ce que j'en savais, là, quand j'ai regardé tout ce qu'il y a à apprendre. Parce qu'à chaque fois que tu découvres quelque chose, là, tu sais, je découvre. Je sors de ma prison il y a 83. Je sors à peine de là. Je ne sais même pas que ça existe autour de moi. Chaque nouvelle question que je pose, chaque réponse que je trouve, me font poser encore bien plus de questions. Qui eux autres, quand je réponds à deux, trois de ces questions-là, me font poser encore bien plus de. Tu finis plus. Tu finis plus à te poser des questions pour essayer d'y répondre. Surtout pas moi, quand moi qui est un névrotique de vouloir tout répondre aux questions que j'ai dans ma tête. Il faut toujours que j'essaie de répondre. C'est épuisant. Mais j'entends, c'est pas que tu finis 30 quelques années après. Tu sais à peine un peu plus que ce que tu savais. Mais c'est béni parce que tu apprends toujours. Fait que tu es dans un processus d'apprentissage continuel avec deux outcomes, deux. Fin possible, deux résultats possibles, merci Julie, de dire, ben, est-ce que j'apprends toujours, puis que j'ai comment il dit ça, lui?
Sans jamais arriver
à la connaissance de la vérité, mais qui résiste à la vérité. Il n'arrive pas à la connaissance, mais le peu qu'il connaisse, il résiste à ça. C'est plus que, là, c'est parce que t'as un problème. Tu réponds à une question, mais tu résistes à la réponse que tu as trouvée. Puis 2 Thessaloniciens 2, 10, Julie, tu veux-tu lire? 2 Thessaloniciens 2, 10.
Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Alors, Dieu, il sait qu'on est vraiment mal pris, qu'on a hérité cette inclination vers le mal, hein, vers le péché, cette inclination qu'on a reçue à cause de la mort qui est rentrée en l'univers par Adam. Dieu, dans sa grâce, permet qu'on reçoive l'amour de la vérité. Hein? Mais les autres, ils n'ont pas accepté. Puis le mot recevoir ici, c'est recevoir comme, tu sais, je te donne quelque chose, puis tu le reçois de moitié. Tu reçois quelque chose. Fait que. On a une clé. Fait que tu reçois. Fait que les autres, ils n'ont pas reçu.
Tu le gardes.
L'amour de la vérité. Fait que. Ça veut donc dire que. À celui qui manque, c'est l'humilité qui est la force motrice de la marche chrétienne. L'humilité qui dit je n'ai pas, je dois reconnaître ce que je suis, je dois reconnaître qui je suis, je dois reconnaître comment je suis. C'est ça qui est la force motrice. Parce que Dieu donne à celui qui s'humilie, fait grâce aux uns, et tout le long des Écritures, on voit une chose, c'est tu as deux possibilités. Soit que tu t'humilies puis je t'élève, ou soit que tu t'enorgueilles et je t'abaisse. Soit que l'humilité est volontaire, soit qu'elle est forcée d'humilité. Je n'entends pas qu'elle soit forcée. Je n'entends vraiment pas qu'elle soit forcée d'humilité, parce que Dieu veut nous élever, mais pour qu'on puisse être élevé par Dieu, il faut l'humilité, il faut reconnaître qui on est, qu'est-ce qu'on est. J'ai souvent dit, tu te souviens, j'ai souvent dit ça dans le passé, Jean-Sébastien, qu'est-ce qui me... L'une des choses les plus... L'un des sentiments les plus prenants pour moi dans ma vie, c'est le sens aigu de mon indignité devant Dieu. J'ai un sentiment aigu, je sais que je suis indigne devant Dieu. Il y a un long à dire pourquoi je me sens indigne devant Dieu, surtout dans les années 90, là, fin 90, début 90, début 2000. Là. Mais ce sens aigu d'indignité fait que je crie à Dieu pour que justement il puisse me lever. Parce qu'à moins que lui fasse quelque chose, on vend tout ce qu'on a, puis on vient tous des hippies. Des hippies. on vend tout ce qu'on a, on vient des mendiants qui vivent dans les temples. Parce que, qu'est-ce que tu veux faire? Si Dieu ne répond pas à ce désir qu'on veut de le connaître, puis qu'il nous fasse justement la grâce de se révéler. Hein? Jean 14, 21. C'est quoi, non, déjà, ça? Jean 14, 21. Ça me c'est le verset-là, bien dans ma tête. Là.
Celui qui aime mes commandements.
Celui qui aime mes commandements et qui les garde.
C'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime sera quoi?
Aimé de mon Père.
Aimé de mon Père.
Je l'aimerai.
Je l'aimerai. Et c'est quoi la conclusion, le résultat?
Je me ferai connaître.
Je me ferai connaître. Fait que de vouloir, de marcher avec Dieu, de se laisser, d'être un matétès qui ne résiste pas à la vérité, mais qui apprend à aimer les commandements. Puis les commandements ne sont pas pénibles, mais souvent les commandements de Dieu ne sont pas agréables partout. Celui qui aime les commandements, qui aime les commandements, qui les garde, sera aimé. Il y a comme un aspect de l'amour de Dieu. Il nous aime, mais il y a comme un aspect de l'amour de Dieu qui est d'une conditionnalité, qui contient la « Hey, je l'aimerai ». Tu vas savoir que je t'aime. Tu vas savoir que mon fils t'aime. Puis pas seulement ça, je vais me faire connaître à toi. Je vais me faire connaître. Ça veut dire ça, me faire connaître, ça veut dire que je ne connais pas comme je devrais connaître. Ça veut dire que la connaissance entre, mais l'amour édifie. Mais comme je connais, quand je me laisse aimer, comme je découvre l'amour du Père pour moi, il me connaît, il se fait connaître à moi. Et je rentre dans ce processus-là, où est-ce qu'en le connaissant, en apprenant plus de la vérité, qu'est-ce qui se passe? On l'a lu dans Jean-Luc 32 tantôt.
La
liberté de plus en plus grande. Je sors de plus en plus de ma cage. Et là, on rentre dans un processus qui est bien intéressant d'être affranchi, de marcher dans un affranchissement. De marcher dans un affranchissement. Où est-ce que je crie à Dieu pour recevoir cet amour de la vérité? Je me souviens, il y a En 2006. On est arrivé là-bas en attachement juste en 2006. Ça veut dire qu'en 2010. Quand est-ce que j'étais au chômage? Hein? 2009-2010. Ouais. 2009-2010, je me souviens, c'est une journée un peu comme aujourd'hui, pluvieuse, mais avec plus de bruit. Je voyais à peine là, à 10 pieds devant moi. Puis j'étais allé sur la plage. Puis là, je m'étais agenouillé dans la salle à la plage. Il n'y a pas personne. Je n'étais pas gêné parce que personne ne pouvait me voir de toute façon. J'étais assez loin. Je veux dire, personne ne me voyait. J'avais comme un camouflage de brume et de brouillard autour de moi. Puis j'avais crié à Dieu. Je dis, Seigneur Dieu, garde-moi de l'enseigner des choses que je vais avoir pour plus tard. Garde-moi, protège-moi de l'enseigner des choses qui ne sont pas à ta gloire puis que je vais avoir pour plus tard. Devant toi, que ma prédication, que mon enseignement reflète, te reflète. Puis si je suis dans l'erreur, montre-moi-le, puis permets pas que je mène les autres dans l'erreur. Parce que si moi je me trompe, c'est une chose, mais si j'amène d'autres avec moi dans l'erreur, là, ça n'est plus. Puis que Dieu me garde. Et je me souviens, là, comme c'était hier, j'étais à genoux dans le sort, là. Les vagues frappaient, s'il n'y avait pas beaucoup de vent parce qu'il y avait un gros brouillard. Je me dis, Seigneur, justement, donne-moi cette. Empêche-moi d'enseigner quoi que ce soit qui soit contre ton cœur. Évidemment, je ne pense pas que. Je pense qu'il va, il peut me laisser à ma folie. Mais par la grâce de Dieu, je prie que justement, si je deviens fou, il m'empêche, parce que c'est ma prière à lui, c'est mon cri du cœur à Dieu. Je disais, non, je veux marcher, je veux vivre de toute parole de Dieu, Matthieu 4:15. Je veux me laisser affranchir par la parole de Dieu, Jean 8:32. Je veux aimer, je veux recevoir l'amour de la vérité pour marcher de plus en plus et de mieux en mieux dans le Seigneur. Puis ça, je pense que c'est vraiment important qu'on se le rappelle. Surtout qu'on est une église qui est vraiment guérée, c'est moi l'expression, qui célèbre la beauté de la parole de Dieu puis de l'enseignement. On doit toujours se rappeler justement que, hey, c'est pas parce qu'on célèbre l'enseignement, on célèbre la gloire de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu qui peut affranchir, qui produit la foi, qui procure la foi. La foi est ce que j'entends, mais la parole de Christ dans Romains 10. Il faut se garder de dire, hey, je veux être de ceux qui apprennent toujours, mais qui me laissent toujours enseigner, et pas de ceux qui apprennent toujours. T'sais? Et gloire à Dieu, on est là, mais il faut qu'on se le rappelle. Puis ce soir, je l'aurai en goût, en ce cas, premièrement pour moi-même, de me le rappeler, puis qu'on se le rappelle ensemble, de la beauté, puis de la noblesse de la parole de Dieu. Puis cette capacité que la parole de Dieu a, de nous affranchir de nous-mêmes. C'est drôle parce qu'on est le premier. On est le premier de qui on est esclave, c'est de nous-mêmes, finalement. T'sais. Puis on doit se rappeler de ça. Pour moi, en tout cas. Il faut vraiment qu'on se rappelle de ça. Amen.
Amen.
Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci pour ta parole, la beauté de ta parole, la gloire de ta parole, Seigneur Dieu. Merci, tu veux nous faire affranchir. Tu veux qu'on vive de toute parole de Dieu. Tu veux qu'on marche, qu'on ait le progrès en progrès. Tu veux qu'on soit de plus en plus libre. Parce que dans ce temps-là, on peut saisir l'amour subjectivement. Cet amour que tu nous déverses, qu'on sache ou non, qu'on le réalise ou non. Quand on se laisse affranchir, Seigneur Dieu, on peut vivre de plus en plus de cet amour de manière subjective. C'est-à-dire, je comprends, je me laisse enseigner par toi, tu te laisses connaître à moi. Gloire à ton nom, Seigneur Dieu. Gloire à ton nom. Dans ton précieux nom, Seigneur.